为你痴个心。
Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Ontario. Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web Choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous!
Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiante, étudiant à l'UQAM et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@commercial.ca. À bientôt!
Comment le voir?
Et vous écoutez
Choc.ca.
Et bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, mettons, parle-t-on dans ton micro, Tom. Ben c'est ça, hein, il se passe rien, parle-t-on dans ton micro.
Allô?
Ben c'est ça qui se passe.
Ah.
Hey, t'étais au numéro 4.
Oui.
On a beaucoup parlé jusqu'à la dernière minute, donc c'est une question de base. Donc on note à la maison, on demande le numéro de micro. Pour les gens qui ne connaissent pas le studio de choc, en fait, le studio de choc est fait, le studio principal est fait d'une comme d'une araignée de micros dans une table centrale où les micros, il y en a 6 et ils s'entremêlent tous. Donc difficile des fois de deviner lequel c'est. Et tu es, Tamara, au 4.
Yes.
Tamara, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va pas pire. J'ai faim. je racontais ça un peu avant de rentrer en onde. Ça se peut que je cherche mes mots. Ça se peut que j'ai comme vraiment couru beaucoup. J'ai arrêté de travailler. Je suis couru au studio. Puis j'ai pas eu le temps de souper parce que c'est la semaine de lecture à l'UQAM. Mm. Et ainsi, tout est fermé dans l'UQAM pour se sustenter de façon efficace. Et je suis pas allée...
Te sustenter.
aux machines distributrices. J'aurais peut-être dû, mais non. Plus l'épisode va aller, plus je vais être comme affamée. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des gens qui l'ont bien plus dur que nous, dont des pirates qui vivent la belle vie de pirate. Mais avant de parler de la belle vie de pirate, Tamara, je me demandais, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, mettons. Peux-tu répéter, mettons, toi, t'es qui dans la vie?
Oh mon Dieu, c'est vrai, ça fait longtemps. Allô, moi c'est Tamara, je suis maître en cinéma, j'ai fait ma maîtrise sur le nouvel archétype du héros chez Disney. D'ailleurs, grande primeur, je sais pas si je te l'avais dit, Élie, on m'a convoqué pour une conférence le mois prochain, donc le 18 mars. Je serai en conférence au cégep de l'Outaouais pour parler je cherche mes mots moi aussi.
De ton mémoire?
Non, je parle pas de mon mémoire. Je parle du premier chapitre. Dans le fond, je parle de l'évolution de l'archétype du héros de Aristote à aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
Ben là!
J'ai une petite heure et quart là, pour parler de ça aux gens puis répondre à des questions.
D'Aristote à aujourd'hui?
Ouais, Aristote.
À cause de la poétique ou ça n'a pas rapport?
À cause de la poétique. Ben. Il y a un petit bout sur c'est quoi être un héros puis on passe à travers... Les théoriciens russes, puis Campbell, puis Christopher Vogler, puis ses petits mémos sur des post-it. Fait que ça va être... je l'ai pas écrit encore, là, mais je pense que ça va être pas mal le fun. Fait que c'est ça que je fais dans vie.
Puis c'est dédié à des étudiants de com, des étudiants de...
Ben, ils m'ont dit que c'est la semaine de la com au cégep. Fait que I guess que c'est des étudiants en com. Du cégep, puis c'est ça, la thématique de la semaine, c'est les héros et les héroïnes, et c'est pour ça que j'ai été contactée.
C'est tellement hot.
Yo, je suis vraiment contente.
Ben écoute, c'est drôle parce que je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine qui disait que, tu sais, qu'il était en train d'écrire sa thèse puis qu'il était comme, c'est tellement d'années pour quelque chose que personne ne va lire, tu sais. Puis des fois, c'est comme, tu sais, tu lances ça dans le... C'est un peu comme nous qui font de la radio. T'sais, moi, souvent, les gens, tu sais, comme, ah, la radio, tu sais, c'est... En fait, on m'en parle pas tant que ça, là. Souvent, les gens qui m'en parlent, c'est des gens avec qui je collabore, là. Mais tu sais, comme, souvent, j'explique, moi, je fais ça pour le void. Je fais ça pour le vide. Puis je me dis, si ça peut venir chercher des gens, tant mieux. Mais ça veut pas dire de pas vouloir s'améliorer. Ça veut pas dire de vouloir se professionnaliser un petit peu à travers tout ça quand même, puis acquérir plein de compétences. Mais ça veut surtout dire, à un moment donné, qu'on reste des esprits de bénévoles. Puis que des fois, il faut le faire pour un peu le vide. Puis ça a l'avantage aussi que, mettons, je suis pas obsédée par les cotes d'écoute. Mais ouais. Toi, quand t'as écrit ton mémoire, t'avais-tu comme cette réflexion-là sur le fait de faire quelque chose pour la postérité?
Hé, la gang, je vais être ultra real avec vous autres aujourd'hui. Moi, j'ai fait un mémoire, entre autres parce que je trouvais ça vraiment cool de pouvoir dire aux gens qui doivent m'appeler maître. Je trouve ça incroyable. Puis j'ai fait un mémoire sur Disney spécifiquement parce que je me suis dit, je vais travailler pendant 2-3 ans sur le même sujet. Faut que je trouve de quoi que ça va me tenter tout le temps de regarder. Mm-hmm. Fait que, tu sais, les films de Disney, c'est pas quelque chose dont je me tanne. Puis oui, mais oui, en fait, je trouvais ça cool de participer à la science derrière mon milieu. Par contre, je vais vous dire aussi que les gens ne croyaient pas en moi à l'université. Ma présidente de jury était ma némésis numéro 1. Elle a tout fait pour que je ne réussisse pas ma maîtrise en disant « c'est pas, ça vaut pas grand-chose, whatever ». Et depuis, ben, j'ai eu un article sur mon mémoire dans la presse, on m'a invité à donner ma conférence. J'ai eu mon propre épisode aux Amazones aussi. Donc, puis on m'a aussi invité à une pièce de théâtre pour m'exprimer sur l'archétype du héros. Donc, ce que j'ai à dire aux auditeurs, auditrices... c'est de vous faire confiance. Sur quoi vous travaillez, ça vaut la peine. Puis c'est pas parce qu'il y a une personne qui a plus de diplômes que vous qui dit que ça vaut pas la peine. Ben, croyez en vos rêves, puis ayez du plaisir. C'est tout ce qui compte.
Ça, si c'est bien quelque chose que j'ai compris à l'âge adulte, c'est que les diplômes, ça veut rien dire. Et ça, la formation veut dire quelque chose. Moi, je crois beaucoup au fait d'acquérir de la formation, mais il y a des épais qui ont des doctorats, là, mais des imbéciles! Oh. Puis c'est une conversation qu'on a souvent, mettons, je vais arrêter de divaguer, là, mais c'est une conversation que j'ai souvent avec des proches où est-ce qu'on se dit, tu sais, mais tu peux pas être complètement imbécile, tu sais, je dis ça, mais c'est pas que c'est des imbéciles, mais c'est, je pense, beaucoup relié, en fait, au fait d'errer un peu aussi dans, tu sais, le fait de, si t'acquiers une notoriété dans ton domaine, ta notoriété est dans le domaine, mais ça te donne pas le droit de commenter tout et chacun et tout type de domaine sous prétexte que, bien, voici comment je peux briller par l'acquisition de mes diplômes. J'avais vu une conférence d'Alain Deneau l'année dernière où est-ce qu'il parlait justement de gens, mettons, qui étudiaient en sciences de la nature, mais qui se permettaient d'utiliser des lunettes d'anthropologie sous prétexte que, dans le fond, bon, ben, c'est un peu plus simple. T'sais, des sciences molles, c'est simple. Fait que, on peut s'adonner à la science molle lorsqu'on provient de la science pure parce que, dans le fond, la méthode positiviste qu'on utilise est justifiée. On peut donc se permettre, par la suite, de commenter ces sciences-là. Je ne sais pas. Je n'y crois pas, en fait. Puis je crois que, ben, je crois un petit peu aussi à ça. Tu sais, comme, mettons, j'étudie, j'aspire à faire une maîtrise un jour, j'aspire à faire peut-être un doc, qui sait. Mon domaine sera mon domaine. Et qu'on me garde, qu'on m'abstienne, des forces supérieures m'abstiennent d'utiliser. Tu vois, la fin, je commence à perdre.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas parce que tu as un doctorat que tu es meilleur que les autres. Ça veut dire que tu as plus de connaissances sur un sujet ultra niché, mais on se rappellera qu'il y a des domaines professionnels qui ne nécessitent pas un doctorat, qui ne nécessitent pas de diplôme du tout. Donc, ça veut absolument rien dire. Le diplôme, c'est comme, bravo, tu connais exactement où mettre tes virgules dans tel type de poème, c'est très nice, là. Mais comme, ça fait pas de toi un meilleur être humain. Donc, voilà.
Et voilà. Parce que, mais on va en parler un peu de ça, puis c'est tellement bizarre parce que là, on dirait que je retarde le début de l'épisode. Et c'est comme si on pouvait faire une analogie avec notre thème, qui est « Our Flag Means Death », saison 2, où j'ai retardé l'écoute de la série. Et je sais exactement pourquoi j'ai retardé l'écoute de la série. J'étais pas capable... j'ai un lien très, très proche en fait, qui relie les Amazones, la série Our Flag Means Death. C'est une des dernières fois où on a vu notre amie Marie en vie, que moi je l'ai vue, du moins, c'est quand on a fait l'épisode sur Our Flag Means Death, saison 1. Et quand la saison 2 est sortie et était disponible sur les plateformes, il y avait tout le temps l'espèce de... On dirait qu'il y avait quelque chose... C'est un peu comme plein d'autres œuvres, d'autres médiums, où est-ce qu'on dirait que quand... Je sais que ça existe, je sais que je vais l'aimer, je sais que... Mais il faut pas que j'y aille parce qu'il y a comme un... Ça sera pas complet. C'est comme si volontairement, je ne veux pas compléter. Et je suis une completionniste dans la vie, là. J'aime pas ça quand il me manque un épisode parce que ça bug sur un site de streaming. Ou j'aime pas ça parce que, mon jeu vidéo, il est complété à 90%. Là. Je veux compléter les choses. Mais il y a cette notion-là, je trouve, que des fois, dans ce genre d'affaires-là, je pense que volontairement, je me mets ou tu sais, peut-être que ça commence inconsciemment, mais à un moment donné, je finis bien par réaliser, ben si je l'ai pas fini, j'ai pas encore complété tout ce qui était possible de vivre autour de ce que je partageais avec la personne, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des œuvres comme Good Omens saison 2 que j'ai pas écouté.
oh mon Dieu.
Puis Our Flag Means Death que j'ai pas complété, que j'ai même essayé. Puis j'étais comme, comment ça se fait? Je sais que j'aime ça. J'ai commencé à écouter la saison en plus pour l'épisode des Amazones. Puis j'étais comme, mais je sais que j'aime ça. Puis j'étais, mais il y a quelque chose qui me bloque. On dirait que je fais comme, mais tant que c'est pas fini, ça reste, tu sais. Mais à un moment donné, tu comprends?
Yeah.
Je sais que je te lance un très, très gros pavé dans la mort que tu vis plein d'émotions. Mais voilà, donc c'est pour ça que je fais un parallèle avec le fait que j'arrivais pas à compléter mes phrases ou que j'arrive pas à commencer l'épisode. Je crois que j'ai cette relation-là avec cette œuvre-là. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent nous entendre puis peut-être qu'ils ont jamais vécu ça aussi, mais peut-être que ça a déjà existé, là, l'espèce de « je veux pas terminer ». Tant que je termine pas... il va me rester quelque chose à accomplir. Hey, je m'excuse. vous n'entendez pas, mais j'ai ouvert quelque chose. Puis j'en suis désolée, Tam.
Non, mais c'est chill parce que, dans le fond, moi, j'ai commencé à écouter Our Flags Mean Death pour le contraire. Parce que, excusez-moi, parce que moi, me manquait trop. Puis j'avais besoin de ça. Puis je pouvais pas écouter Good Omens parce que les gens qui connaissent pas Marie, c'était... Marie, je la voyais à toutes les semaines. Puis on se parlait à tous les jours. Puis à tous les hosties de jours, elle me parlait de Good Omens. Fait que Good Omens, là, je voulais rien savoir, mais rien savoir. Puis là, j'ai encore une vendetta de toute ma gang commence à l'écouter parce que tout le monde s'ennuie de Marie. Puis on est comme, oh mon Dieu, mais je comprends pourquoi qu'elle trippait là-dessus. Puis je suis comme, toi, t'es pas allé en Écosse avec elle aussi, que c'est ça qu'elle lisait à tous les hosties de jours. C'était son sujet de conversation. Mais bref, fait que Our Flag Means Death, c'est pour ça que je l'avais regardé. Puis moi, je l'ai dévoré, là, comme les deux saisons étaient sorties quand je l'ai commencé. Fait que c'était un peu flou pour moi, là. J'étais allée relire, là, parce que j'étais comme, je sais plus la saison 1 finit où, puis où c'est que la saison 2 commence. Mais bref, c'était pour me rapprocher d'elle.
Puis j'aimerais aussi lui dédier cet épisode. Et vous pouvez retourner dans le passé. Je vais vous trouver la bonne date, en fait. Où on a fait cet épisode-là avec Marie, justement, qui était, je viens de retrouver, c'était l'épisode 209 qu'on a diffusé le 24 mai 2022. Si jamais vous voulez entendre ce qu'on avait à dire sur la saison 1 à ce moment-là, évidemment, on va reprendre aussi certains éléments qui ont été nommés à ce moment-là parce que ça reste que Our Flag Means Death, saison 2, est une série qui va reparler des thèmes de la Chosen Family, qui va reparler des thèmes de la queerness, qui va reparler des thèmes de des valeurs morales aussi, puis de comment on peut s'extirper non seulement de ce qu'on nous a imposé comme identité sur tout plein de niveaux, mais aussi où est-ce qu'on peut, on peut ne pas devenir une mauvaise personne à travers ça. T'sais. Où est-ce que c'est que cette rébellion-là peut se faire dans une douceur, puis dans une volonté de juste être moralement bon. Puis d'être moralement bon ne veut pas dire se conformer à ce que l'institution nous oblige. C'est une œuvre excessivement rebelle. C'est une œuvre qui nécessitait une troisième saison. Je trouvais en fait des textes où les créateurs de la série disaient « Ben, c'est sûr que notre troisième saison, ça va être la dernière. On va vouloir closer tout ça. On va vouloir fermer la boucle pour une bonne... tu sais, comme il faut. » Mais malheureusement, la série a été annulée.
We've been robbed.
C'est d'une tristesse sans nom. C'est absolument épouvantable. Écoute, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Ça a été annoncé au début de l'année 2024. Donc, les choses peuvent se poursuivre. Peut-être un film. Peut-être qu'il n'y aura pas une saison. Peut-être qu'il y aura autre chose. Mais c'est clair que la demande des fans est là. Et ce que je voyais aussi, c'est que les critiques étaient dithyrambiques. Il n'y avait pas d'enjeu. Mais c'était... puis j'ai de la misère à croire aussi que c'était un show qui devait coûter très cher. Parce que c'est des décors à l'intérieur. On n'est pas... On le voit là, que le bateau... c'est pas un vrai bateau.
c'est fin. Ça prend un œil averti.
Non, c'est ça, tu sais, fait qu'on n'est pas dans des dans des dépenses qui me semblaient ultra intenses là, tu sais, ultra c'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, c'était pas ostentatoirement coûteux, on dirait comme show. Il y avait énormément d'acteurs, mais je veux dire ils produisent des séries comme White Lotus, puis des choses comme ça. Et là, moi, je suis pas en production télé. Puis peut-être que quelqu'un me dirait, « Ouais, mais tu comprends pas, genre, White Lotus, c'est tellement populaire, c'est la raison pourquoi les gens s'abonnent à des plateformes de streaming qui les diffusent. » Donc, c'est pour ça que le cash s'en va là. Un peu comme un Stranger Things de ce monde ou tout ça, ou est-ce que c'est des séries que c'est à cause de ça que les gens s'abonnent, parce que la saison va ressortir, tu sais, et que c'est là que le cash est généré. Mais pour HBO Max, j'ai aucune idée comment ça fonctionnerait en théorie. Puis je me dis, ben, tu sais, qu'est-ce qui justifie, en fait, à quel point est-ce que c'était... Si c'était pas si coûteux que ça, j'en déduis, mais je peux sûrement trouver l'information, en fait, pendant que je te relance sur autre chose. Bref, on va parler de la saison 2 aujourd'hui, mais malheureusement, aux dernières nouvelles, peut-être que bientôt, il y aura autre chose, une suite, une finalité à un téléfilm, un, je sais pas trop quoi, un roman, une BD.
Un téléfilm! On n'est pas en 93!
Oh, ouais! Ben, ils ont fait ça avec... Sense8.
Ah, oh, c'est vrai!
Ils ont sorti un film parce qu'ils ont, cancel le show, mais ils ont fini par sortir le film qui, comme, permet un peu la boucle. Ils ont fait ça avec, la série que tout le monde était fâché que ça soit qu'il n'y ait pas d'autres saisons.
Il y en a beaucoup.
Ouais, mais elle était comme réputée. Là, une série de science-fiction avec le gars qui jouait Adam dans Buffy. Mon Dieu, j'ai oublié tous mes noms. Va t'en retrouver. J'ai juste Far Cry dans la tête, mais ça, c'est un jeu vidéo. Là,
ouais,
mais...
non.
Fly.
Ah, oh, Firefly!
Oh my God, c'est ça.
Ben... Firefly. Ouais, mais ça, c'est parce que ça a été saboté par Fox. Là. Ils ont sorti tous les épisodes, mais pas dans le bon ordre. Fait que là, les gens, ils comprenaient pas l'histoire. Comme, en tout cas. Puis ils l'ont mis dans une time slide qui faisait qu'il y avait personne qui allait l'écouter là parce que c'est pas un moment populaire pour regarder. Bon, on partirait pas là-dessus là, mais je suis encore fâchée. Mais aux autres, au moins ils ont fait le film Serenity, il y a eu un close-up là-dessus.
Ben c'est ça, fait que tu sais, mais c'était pas un téléfilm parce que c'était sorti au cinéma. Mais c'est ça, tu sais, fait que je me dis peut-être qu'il y aura autre chose qui va closer tout ça, mais de ce que je comprends, si t'as pas tes vedettes pour closer tout ça, c'est ça qui a fait que dans le fond parce que les vedettes allaient s'en aller, mais en même temps, je me dis...
Non, toutes les vedettes que j'ai vues du film de la série étaient comme on est triste que ça soit fini, on était vraiment down, comme...
Ouais.
Tu sais, I don't know. Mais peut-être que s'il y a assez de pression de fans qui chialent... I mean, on l'a déjà vu par le passé que, tu sais, comme Futurama vient d'avoir une nouvelle saison, comme...
Mais Futurama avait eu un closure, par exemple.
Futurama a eu 3 closures, là. Ouais. C'est comme la 4e fois qu'on le revive, là. Mais c'est ça, c'est que le monde, il se plaigne, mais... Ouais, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce que tu te rappelles de la saison 2?
La saison 2...
Commence avec, entre autres, Blackbeard, qui a repris son équipage. Steed, qui est reparti aussi un peu de son bord, mais qui se sont séparés. Et qu'il y a la notion un peu de peine d'amour qui s'installe. Et qu'on voit deux façons un peu de le gérer complètement différentes. Là. Mais qui vont finir par se retrouver, mais vont rentrer en contact avec d'autres aspects de la piraterie. Donc, avec d'autres genre de l'univers des pirates, dont la princesse des pirates, dont le nom m'échappe en ce moment.
Seng Yi Sao, qui est la femme pirate, en fait, la pirate tout genre confondu, la plus badass de l'histoire. Là. Fait que moi, c'est surtout ça que j'ai retenu la saison 2. Que j'étais comme, oui, c'est quoi son nom? Spanish Jackie, vraiment badass. Oui. Là, congrats to Leslie Jones. Mais on s'entend qu'il manque de madame dans la série. Et la saison 2 a amené justement des classiques de la piraterie comme Zegny Saw, comme Mary Read.
Oui.
Son deuxième nom m'échappe, c'est quelque chose Bonnet, là.
Oui, Anne Bonnet.
Anne Bonnet. Et ces madames-là, comme, si vous aimez, si vous aimez ça, ou si vous connaissez pas ça, vous voulez en apprendre plus, il y a Ryan puis Shane, anciennement de BuzzFeed, maintenant qui ont The Watcher, qui ont fait des épisodes sur, justement, comme, des moments de l'histoire funny et qui parlent, justement, je pense que c'est Puppet History qui a un épisode sur Zegny Saw, puis sur, Anne Bonnet puis Mary Read. C'est un truc sur les histoires loufoques de l'histoire, là. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est extraordinaire. Fait que je vous invite à aller voir ça, là. C'est de l'excellent contenu. Puis, mais dans la série, comme Zegny Saw est juste tellement badass de jouer sur, justement, comme, tu sais, la Zegny Saw, elle est c'est quoi le mot que je cherche, tu sais, comme, elle est vraiment c'est pas badass là, mais tu sais, comme, elle fait peur et elle
est intimidante
puis tout, puis là, comme, quand t'arrives dans son bureau, puis toute comme, oh, c'est difficile d'être un pirate, hein? Raconte-moi ta journée. Oh my god. Puis elle les a toutes un après l'autre. D'ailleurs, il y a Oulu qui finit par, comme, c'est son préf, là, elle tripe dessus solide, puis elle aussi, elle vit sa petite peine d'amour, là. Ouais. Mais je l'aime tellement. Puis au début, j'avais peur, comme, elle est là pendant 2-3 épisodes, puis à un moment donné, comme, l'équipage sac son camp, puis on la voit plus, puis j'étais comme, oh non, j'aimais tellement ce personnage-là, et elle revient à plusieurs reprises au cours de la saison, là. Moi, j'ai trouvé ça excellent, tandis que les deux autres sont dans un couple. C'est un couple qui vit sur une île, puis c'est juste pour montrer à Ed puis Steed que, ah, eux autres, les deux femmes ont l'air comme de vivre leur best life, finalement, comme, ils se poignardent puis ils s'empoisonnent pour le fun. Puis les deux gars sont comme, OK, ben, on va y aller, nous autres. Finalement, on n'est pas si pire que ça.
Effectivement, puis, donc, comme je disais, j'ai pas terminé la série parce que j'ai comme retardé ça jusqu'à dans la minute. Genre, Tamara est arrivée, puis je suis encore en train d'essayer d'écouter les épisodes en me convaincant que j'aurais le temps de les finir. Fait que là, je sais comment. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la saison, si c'est pas, mettons, au niveau de. Oui, au niveau de l'arc narratif, j'ai des. Ben, dans le fond, au niveau du texte, au niveau de plein de choses, j'ai des choses à dire, mais je trouve que les arcs narratifs des personnages qu'on a vus dans la saison 1 qui reviennent dans la saison 2, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas cristallisés dans une identité, dans le sens. Ah, ben c'était ça leur enjeu. Ben là, ils ont des différents enjeux. Ils ont des différents défis. Le personnage de Lucius aussi. Que...
Oh mon Dieu! Lucius, qu'on pense qu'il est perdu à jamais, puis qu'il revient. Puis tu sais, comme Lucius, qui est très, très fruity, très fancy boy, qui scribe et tout. Puis là, il revient, puis il est juste en crise tout le temps, puis il sac, puis il a commencé à fumer, puis il est full badass, puis t'es comme... OK, ouais, Lucius aussi, il a rencontré son petit changement de... Ce qui fait du sens, là, comme il s'est ramassé à des places pas de bon sens, mais c'était un beau retour du personnage.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, puis Blackbeard aussi, justement, qui a beaucoup changé, parce que là, il était sanguinaire, puis là, il s'est adouci auprès de Steed, mais là, il a eu sa peine d'amour, fait que là, à cause de sa peine d'amour, il est redevenu comme sanguinaire fois 1000, parce qu'il retombe dans ses vieux patterns. Puis là, sa névrose va se compléter par un événement de mort subite, duquel il va revenir. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, cette espèce d'aspect-là de... Ben, c'est de la fantasy, puis on va vivre... Tu sais, il y a un aspect fantastique, puis il faut vivre avec, puis c'est correct parce que c'est des pirates, puis comme, tu sais, il y a du mythe, il y a de la magie, puis c'est... Ça a l'air d'être pas juste dans sa tête, là, ça a l'air d'être vraiment arrivé, d'avoir vraiment survécu, parce qu'il est quand même mort longtemps là, pour revenir. Là, comme ça me semblait bien important, mais bref, il va visiter le monde du purgatoire, ou Ish, ou je sais pas trop quoi,
ouais.
Où il va affronter un peu sa propre peur, puis il va atteindre littéralement le fond du baril de l'océan en vivant à travers ça un peu son espèce de totale autodestruction. C'est là qu'on le voit aussi, que c'est comme... C'est pas sa faute à lui. C'est pas sa faute à lui si il a eu à se défendre puis à tuer son propre père, comme on le voyait dans la première saison, où est-ce qu'il a interprété le Kraken, en fait, puis c'est vraiment une façon de comme un peu gérer son trauma, ou est-ce que c'est comme, ben, le plus grand monstre que j'ai rencontré, ben c'est lui, puis je l'ai mais j'en suis jamais revenu indemne de ce combat-là. Et pourtant, il va arriver à justement comme juste se réaliser que comme oui, mais là j'ai transmis, j'ai fait le mal autour de moi parce que je réglais pas ça. Et le mal, comme je disais, ne veut pas dire de juste suivre les règles. Ça veut juste dire d'arrêter de faire souffrir les gens qui essayent de nous aider, tu sais, puis d'être vraiment revenir vers la famille. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça un peu rapide, par exemple. Ça, si je peux le dire, là, j'ai trouvé que c'était comme... C'est sûr que 8 épisodes, c'est pas beaucoup. 8 demi-heures, en plus, c'est pas beaucoup. Mais j'ai trouvé que le switch était très, très, très... J'avais l'impression qu'on était beaucoup dans le « là, il faut qu'on passe à autre chose ». Fait que là, maintenant, il va bien. C'est genre « ah, maintenant, il fait plus d'excès de colère, il tente plus de... » Tu sais, je me suis même dit, ben, c'est sûr que la saison 1, où est-ce qu'il y avait comme un peu cette tentative-là, mais tu sais, comme il revient de sa mort, puis c'est comme s'il était juste comme une autre personne, tu sais.
I mean, on a souvent entendu parler, mettons, dans la vraie vie, là, les gens qui voient la mort de proche. Tu sais, comme, il y a la série Décadence au complet pour montrer aux gens comme, ah, t'as failli mourir, comme, ça te fait voir d'autres choses. Mais comme toi aussi, je trouve que c'est rapide, mais c'est ça, 8 épisodes de 30 minutes, c'est pas beaucoup. Mais j'ai quand même aimé tout l'aspect de, OK, mettons qu'on accepte qu'il va bien, mais le reste de l'équipage fait pas confiance tout de suite. Ils sont comme, ça va me prendre du temps. Puis là, ils mettent une espèce de collier avec un grelot pour pas qu'il puisse sneak attack, pour rassurer un peu le monde. Puis il y en a que ça prend du temps là, avant qu'ils acceptent qu'ils soient comme gentils.
Ouais.
Mais ça, au moins... Comme si on le rushait un peu du côté de Edward, l'équipage au complet a fait comme « Ouais, attends une minute, comme, moi je le trosse pas. » Fait qu'il y a au moins ça qu'ils ont donné. Là.
Effectivement, puis tu sais, on parlait d'avancement de personnages, puis un des personnages que je trouve intéressant, c'est le personnage de Jim, parce que je trouve vraiment que Vico Ortiz, genre dans son interprétation, tu sais, la première saison, c'était beaucoup justement sur son affirmation de genre, mais là, c'est comme, tu sais, c'est fait. Fait que là, on passe à autre chose, tu sais. Fait que c'est pas comme si, mettons, ça positionnait le fait que c'était un personnage qui avait à affirmer un genre à, ben c'est ça, tu sais, ça va être juste ça, son arc. Là, il y avait d'autres choses, tu sais, il y avait justement sa relation avec la fille. Que là,
Archie,
sa relation avec Archie, puis sa relation avec Hulu, puis tu sais, tout ça, puis à renaviguer tout ça, puis de faire comme, dans le fond, il y a des personnages qu'il faut comme... On veut qu'ils reviennent ensemble, mais il y a des choses qui peuvent évoluer aussi à travers ça. T'sais, Hulu peut être autre chose que genre la personne qui se donnait comme un rôle de protecteur envers Jim puis tout ça. T'sais. Puis où est-ce que justement t'as des personnages comme Lucius puis son
Black Pete. Ça là, ce couple là, je l'aime tellement parce que c'est pas que ça sort pas de nulle part, mais je veux dire tu t'y attends un peu moins parce que Le focus n'est pas là-dessus. Tu sais, t'es comme, ah, oh, tu sais, mettons dans les. Ben, de moins en moins, là, mais souvent, il y a comme, t'as un couple, genre, issu de la diversité sexuelle. Puis là, ben, ah, oh, finalement, il y en a deux parce que tu comptes aussi Jim. Puis après ça, t'es comme, OK, ben, on a Lucius et Black Pete, que c'est comme un peu un slow burn, là, comme ils se parlent, puis t'es pas sûr, puis nanana, puis ils se fiancent dans saison 2, puis t'es comme, oh my god, je savais pas que j'avais besoin de ça, mais oui.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, do it.
Ben c'est ça, puis c'est beaucoup ça aussi, tu sais, c'est que t'as beaucoup de personnages que par leur relation, qui passent beaucoup par des relations amoureuses, là, on va se le dire, là, mais parce que même, voyons, le personnage de, et là, j'oublie tous les noms, là, mais Easy Hands, tu sais, même le personnage de Easy Hands, là, tu sais, que dans le fond, est en confrontation tout le temps avec Blackbeard, mais qui le fait de par... aussi le fait que ben ils ont eu une tension ensemble, ils ont déjà été ensemble puis tout ça. Fait qu'il y a un petit peu cette affaire là incestueuse aussi, ou est-ce que c'est comme cette famille là est bâtie comme mettons avec des liens solides, mais ces liens solides là sont beaucoup basés sur le fait qu'il y a des gens beaucoup qui ont couché beaucoup ensemble. Et je trouve ça quand même intéressant parce que je fais comme c'est pas tant loin de la réalité queer souvent là, tu sais, où est-ce que c'est comme ben il y a eu des phases de il y a eu de l'affirmation qui s'est passée par tout ça et tout ça, puis je veux pas dire que en tout cas, tu sais, je veux pas non plus perpétuer un préjugé que les personnes queer sont plus portées sur, mais c'est plus qu'il y a comme une espèce de, même si c'est pas sexuel, c'est qu'il y a une espèce d'intimité qui va se créer, que ça soit parce que par le partage du secret ou que ce soit par le partage d'une j'ai pas beaucoup de lieux où je peux être vraiment moi-même, tu sais, puis tout ça, puis je pense que ça crée cette espèce d'unification-là, puis cette espèce de consolidation des liens basée sur, justement, quand est-ce que dans la vie, je peux être dans l'authenticité totale, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ce que je trouve aussi qu'on voit un peu à travers le bateau, où est-ce que t'as des personnages que ils vont se confronter, puis tu sais, je veux dire, Izzy puis Steed vont énormément se confronter, puis à certains moments vont être un peu comme les deux pôles de ce que
Blaine,
de Ed, oui. Exactement, tu sais. Fait que même s'ils sont pas ensemble, ils sont comme dans le même polycule à quelque part, tu sais, où est-ce qu'ils vont comme un peu comme... Bref, tu sais, puis c'est intéressant aussi au niveau visuel, où est-ce que, tu sais, il y en a un qui est tout habillé en noir, l'autre qui est tout habillé en blanc, tu sais, comme on est vraiment dans des archétypes visuels aussi, je trouve, de ça, tu sais, déjà qu'il y avait celle entité des Ed, mais où est-ce que, justement, Easy Hands représente ça. Mm. Mais, tu sais, avant qu'on rentre en onde, j'écoutais l'épisode de l'anniversaire de Calypso.
Ah, oh, mais justement, tu sais, comme, ça c'est quoi son nom de personnage? Oui, John Feeney, qui interprète Calypso pendant la célébration, puis qui se rend compte que, hey, j'aime fucking ça, genre, être fucking fabulous, puis maquillée, puis le reste de l'équipage est juste, yo, tu vis ta best life, go for it, tu sais, comme, tu vis un vraiment beau moment, puis il aurait vraiment pu faire comme, oh, tu sais, comme, what the fuck, mais en même temps, ils sont sur le bateau à Steed depuis le début, là, le pirate gentleman, là, je pense qu'ils en ont vu d'autres, mais j'ai trouvé ça un beau moment parce que, tu sais, ce personnage-là de Weejun, il est quand même un peu, pas séparé du reste, mais tu sais, c'est pas celui qui a le plus de temps d'écran, mettons, là.
Ouais.
Tu sais, il est là pour être grand. Puis juste comme, de temps en temps, il y a des liners, mais j'ai trouvé ça beau qu'on le mette de l'avant dans cet épisode-là, pour ça spécifiquement, tu sais.
Ouais, puis que, comme tu dis, c'est comme tout le monde est là pour vivre leur best life, tu sais. Et là, ça me fait poser une question. Est-ce que Our Flag Means Death est une série de piraterie qui utilise l'anachronisme pour la rigolade, ou c'est une série qui veut parler de la... d'enjeux très, très contemporains, mais que pour adoucir peut-être ce qu'il essaie de proposer va passer par la piraterie qui est comme super fabulous en plein de sens, puis super, super grandiose, mais que c'est plus, dans le fond, une excuse. Ce n'est qu'un skin pour parler de ce qu'on essaie de dire.
Écoute, connaissant Taika Waititi, c'est sûr que son... comme
mon grand chum.
Mon grand chum. Hey, on va prendre des bières à toutes les semaines, la gang. Mais non, mais tu sais, vu sa carrière puis sur quoi qu'il travaille, je pense qu'il a dû se dire, hey, le monde des pirates, ça a de l'air vraiment nice. Puis tu sais, j'ai regardé des vidéos ce matin de gens qui analysent ça puis qui ont fait vraiment beaucoup plus de recherches que moi là-dessus, là, puis qui disaient justement comme ce qui se passe dans la série, oui, c'est basé sur... c'est loosely based sur des faits réels, mais tu sais, justement, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés pour de vrai, puis ils ont enlevé beaucoup de choses, parce que, encore une fois, 8 épisodes de 30 minutes, ça passe vite, là, mais...
Comme que Steed n'est pas un esclavagiste.
Exactement.
Par exemple.
C'est un peu moins drôle. Tu l'apprécies un peu moins, mettons, comme personnage principal, mais je pense que c'est juste... ça permet un peu à tout le monde de... ça permet de... moi aussi, j'ai de la misère, là. Ça permet de ramener un peu tout le monde. Il y a des gens qui vont voir ça, faire comme, hey, c'est un projet de Taika Waititi, je sais à quoi m'attendre, ça va être, genre, vraiment fabulous, super queer et tout, ça va être nice. Puis des gens qui connaissent pas l'œuvre de Taika Waititi, faire comme, ah, oh, hey, des pirates. Moi, j'ai aimé ça, Pirates des Caraïbes.
Ben oui, mais là...
je vais aller voir ça. Fait que tu sais, ça l'apporte un peu tout le monde, puis il y a quand même une base, si, mettons, vous êtes férus de tout ce qui est historique, tu sais, justement, comme Blackbeard, c'est une vraie personne, Calico Jack, c'est une vraie personne. C'est basé sur des vrais pirates, fait que c'est quand même cool, ça fait la porte d'entrée de, ah, ben, cette personne-là, t'es-tu vraiment de même, je vais aller faire mes recherches, puis voir qu'est-ce que c'est. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu un amalgame de tout, mais je trouve ça nice qu'il ait pris cette trame-là, parce qu'on s'entend que le monde de la piraterie, c'est très... comme on le voit dans la saison 1, là, comme les madames étaient très mal vues sur les bateaux parce que ça porte malheur, parce qu'on a des cristaux dans notre sang qui attirent le malheur. Mais tu sais, c'est ça, c'était des...
on appelait ça des midi-chloriens, mais...
non! Ça, c'est un autre épisode, Ellie.
Oh, OK.
Mais bref, fait que tu sais, c'est des mondes juste de monsieur qui passent plusieurs mois enfermés sur des bateaux, comme à un moment donné... genre, je veux pas vous mentir, mais comme, il se passe des affaires, gang, OK? Comme, c'est sûr qu'il se passe des affaires. Fait que, je sais pas, je trouve ça nice d'amener ce monde, de cet univers-là pour parler d'enjeux d'aujourd'hui qui sont l'écho de qu'est-ce qui se passait un petit peu à l'époque, puis de plein d'enjeux et tout ça. Fait que...
ben oui, parce que ça reste quand même que, T'sais, là, c'est sûr que là, moi, je vois ça dans mes cours en ce moment. Fait que je vois peut-être tout à travers ces grilles-là. Mais tu sais, je veux dire, on peut le voir aussi comme une espèce de... Tu sais, à un moment donné, il fait la joke de dire « OK, on est comme dans un safe space. » Mais,
oui.
Mais sans, mettons, utiliser le terme « safe space » qui est vraiment plus spécifique à autre chose, mais de se dire peut-être que c'est ce bateau-là, de cet équipage-là, est un dernier rempart contre toutes les forces extérieures du système, tu sais. Mm-hmm. Ou est-ce que c'est comme, ben non, mais c'est comme ça que tu dois te présenter, mettons, au niveau de ton genre, mais non seulement ça, parce que t'as des personnages qui sont queer, mais qui ont pas, mettons, steed ou head, ont pas d'enjeu sur leur identification de genre, mais ils ont un enjeu sur la pression patriarcale de comment est-ce que doit être les hommes, tu sais. Puis c'est exactement ce que steed représentait dans la première saison, ou est-ce que c'est comme, au lieu de dire, ben, je veux être un homme différent, ben, je veux qu'on me traite, en fait, je veux qu'on me traite avec respect sur l'homme que je suis, donc je vais devenir un pirate, mais c'est pas comme ça que c'est dit, là, tu sais, c'est que il essaye le plus possible, je pense, de se rapprocher d'un idéal de la masculinité qu'il essaye d'atteindre par la piraterie,
mm-hmm.
pour répondre aux besoins qu'on lui a imposés, de se voir comme d'être pas faible, de pas être peureux, c'est probablement son idéal masculin doit passer par cet archétype là, tu sais. Puis en plus, ben c'est une vie nomade, je pense qu'il se sentait pas bien pris dans la vie familiale et tout ça, puis cette prise de pouvoir là qui essaie de faire, ou cette espèce de projection là, ben il finit par développer, je pense, d'être son propre pirate, de ce que ça veut être. Fait mm-hmm. que j'ai vraiment l'impression, quand on parle de être un pirate, je pense qu'on veut vraiment comme dire à quelque part, surtout dans la première saison, moins dans la deuxième, parce que justement, on a introduit plus de personnages féminins, mais plus dans la première, on est vraiment plus dans une dynamique de... À chaque fois qu'ils disent pirate, on pourrait appeler ça par homme. Puis je mm-hmm. pense que ça pourrait sûrement fonctionner, en fait. Là.
Ben oui.
Tu sais, genre, c'est comme ça. Non, mais t'es pas un vrai homme. Mais non, mais c'est pas comme ça. Puis tu sais, tu seras jamais un vrai homme. Puis genre, tu t'essayes de te faire passer pour ça parce que... Mais tu sais, dans le fond, lui, c'est un vrai homme. Fait que tu sais, il va jamais te regarder de façon... Mais comme je te dis, c'est différent parce que là, on introduit des personnages féminins dans saison 2. Mais
voilà.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de relié à ça, ou est-ce que c'est... Là, on parle beaucoup du genre et tout ça, mais il y a aussi cette espèce d'affaire-là de comme on va partager nos ressources, puis on va partager aussi le fait de... ils ont l'air d'attaquer seulement des bateaux occupés par une certaine tranche de la population. Tu sais, c'est la reprise, c'est la lutte des classes aussi, là, tu sais, puis tout ça, même si Steed vient d'une classe aisée, là, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a quand même cette notion-là, je trouve, de vraiment faire comme un pied de nez aux institutions, mais on le voit pas clairement, je trouve, que... Tu sais, ils mettent pas tant l'accent sur la sanguinarité, ils mettent vraiment, vraiment plus l'accent sur, justement, le rigolo.
Ouais.
Le rigolo, peut-être, de tout ça, mais où est-ce qu'ils parlent de... Je pense que c'est pour ça que c'est une série qui fait du bien, parce que c'est une série où est-ce que finalement, hey, si ça se passait de même, si les gens étaient capables de changer, puis même des gens épouvantables qui ont fait des choses épouvantables, qui sont capables de changer, puis qui sont capables de passer à autre chose, ben finalement, c'est l'arc de Zuko, tout ça, là. Mais ça, c'est autre chose.
Je pense que le but d'Eli aujourd'hui, c'est juste de plugger toutes les fandoms dans l'épisode sur un Flag Me to Death.
Ouais, ben, oui, mais voilà, j'ai fini mon plaidoyer.
Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis tu sais, il y a aussi la persécution, là, tu sais, comme t'as le... Genre la marine royale britannique qui est à leur poursuite. Puis tu sais, comme on peut vraiment le voir comme la persécution de la communauté LGBTQ par comme les gens qui veulent, genre, s'assurer que l'image de la société reste intacte et tout, là. Tu sais, t'as l'espèce de monsieur fru, là, qui finit par mourir, puis là, son frère... Il est comme, t'as tué mon frère, m'a te poursuivre. Puis, en tout cas, bref, il y a tout cet arc-là aussi qui rentre en ligne de compte. Là.
Puis, là, je rentre dans quelque chose de vraiment deep, les amis. Okay? est-ce que tu écoutes le Daily Show? Est-ce que tu as écouté le Daily Show? Est-ce que tu as vu le Daily Show dans la vie?
Je connais le Daily Show. J'ai peut-être vu des extraits.
J'ai recommencé à l'écouter depuis que Jon Stewart est revenu. Puis Jon Stewart a un agenda très clair, ou du moins, il a réalisé des choses en son absence du Daily Show. Puis là, nomme. Ça fait deux épisodes de suite qu'il revient là-dessus. Fait que là, je pense que lui, pour lui, c'est une théorie qui s'applique aujourd'hui. Puis je pense que c'est quand même intéressant. Où est-ce que, dans le fond, notre société actuelle, 2024, n'est plus dans un paradigme de gauche-droite économique, mais serait dans un nouveau, genre, dans une opposition binaire, mettons, qui va dire justement, tu sais, woke et anti-woke, tu sais. Puis où est-ce que, dans le fond, ça pourrait expliquer pourquoi des gens se sentent plus proches d'un Vladimir Poutine, parce qu'il représente quand même l'anti-wokisme, qu'ils vont se sentir proches de, mettons, des gens dans leur communauté, mais parce qu'eux autres représentent justement cette déchéance-là de la société ou peu importe, tu sais. Parce que tu parlais de, mettons, toute l'idée de la marine britannique qui les attaque, mm-hmm. puis que dans le fond, tout ce qu'ils veulent faire, c'est se faire comme « Mais existez plus! » Tu sais, « Existez plus! » Puis, tu sais, je disais que la série était quand même intéressante parce que c'est une série qui est de bonne... Tu sais, quand tu le regardes avec cette lunette-là, ça a l'air plus intense que c'est. Puis souvent, ben, c'est fait dans la bonne humeur, puis c'est des personnages heureux, puis c'est des personnages qui... Mais je trouve quand même que ça la rend encore plus rebelle, parce mm-hmm. Je crois qu'on est vraiment dans un tournant où est-ce qu'il y a des gens qu'on croisait ou qu'on revoit, puis que finalement, se rendent dans cette espèce de pôle paradigmatique où est-ce qu'il y a... Il y a le woke et l'anti-woke, ce qui a absolument, souvent, absolument aucun rapport avec ce que la personne essaie de dire, mais ce qui finalement, c'est je crois qu'il y a ça qui existe et qui va comme englober tout le reste et je dois le combattre. Et ça n'a pas de sens, est-ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que je trouve ça intéressant parce que là, mettons, John Stewart en parle à chaque semaine, fait que je me dis, bon, ben, il y a quelque chose à dire par rapport à ça, mais c'est surtout de faire. Ben, ça peut vraiment expliquer pourquoi des gens vont aller se chercher des alliés et créer des alliances avec des personnes qui ont aucun rapport, qui vont jamais les aider pour vrai, puis c'est quoi qu'ils veulent finalement? Ben, c'est la suprématie blanche, puis c'est l'impérialisme, puis c'est plein d'affaires comme ça. Mais ah, je vais me reconnaître avec eux parce qu'au moins eux autres, ben Chris, ils frenchent pas des gars. T'sais. Il y a quelque chose qui pour moi a absolument aucun sens. Mais ce fossé-là qui se crée est de plus en plus grand. Et la série le fait peut-être subtilement, mais quand tu as nommé plutôt que le fait qu'il n'y ait pas juste un couple ou pas juste une dynamique queer, mais qu'il y en a tout plein, qu'elles s'entrecroisent, qu'elles sont omniprésentes, moi, j'ai beaucoup de plaisir, mais je sais qu'il y a des gens dans ma famille qui ne pourraient jamais écouter une série comme ça, même s'ils aiment les pirates. Tu sais, foncièrement, ils ne pourraient pas l'écouter parce qu'ils seraient comme... C'est l'agenda woke qu'on essaie de m'imposer. Alors que je suis comme... Mais mettons que t'enlèves le fait que c'est des messieurs qui se frenchent, là. Ça reste quand même beaucoup de gens qui se disent entre eux autres, t'as le droit d'avoir de la peine, puis t'as le droit d'avoir mal, puis t'as le droit d'avoir vécu des choses épouvantables, puis ça t'enlève aucune responsabilité à essayer d'aller mieux ou essayer d'aller chercher du soutien ou peu importe, mais c'est pas de ta faute. T'es pas tes parents, t'es pas la société, t'es pas le système... C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais comme moi je suis là, je t'aime, puis je vais essayer de t'accompagner, tu sais. Mm-hmm.
Mais tu vois, cette semaine, c'est mon tour de plugger d'autres fandoms, là. Mais il y a Nick Offerman qui est sorti dans les médias sociaux parce que les gens sont comme en lien avec l'épisode qu'il a fait pour The Last of Us, mm-hmm. où est-ce que c'est un des meilleurs épisodes de série télé que j'ai vu de ma vie, là. Genre, c'était vraiment, vraiment bon. Ou est-ce qu'il est en couple avec un autre homme? Puis les gens sont comme, Arc, mais pourquoi est-ce que tu veux montrer... Attends, comment il dit ça? Pourquoi est-ce que tu veux montrer une relation gay? Puis il dit, Chris, c'est pas une histoire de gay, c'est une histoire d'amour, point. Mm-hmm. Genre, c'est toi le problème en ce moment-là. Comme, pourquoi est-ce que tu vas tracer la ligne-là? Genre, des gens qui s'aiment, c'est des gens qui s'aiment, puis that's it. Puis... dans le même ordre d'idée, mais pas sur le même sujet exactement. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de filles qui se vantent de ne pas être féministes en disant « Moi, je suis pas féministe parce que je peux porter des robes puis je trouve ça correct » ou « Moi, je suis pas féministe, je sais cuisiner ». Puis il y a comme une espèce de mouvement en ce moment-là. On l'a vu aussi, je l'ai vu ce matin, je pense, dans Le Devoir, qui disait qu'il y a une hausse des commentaires homophobes puis transphobes dans les écoles secondaires.
Ah, 100%, ça, je te le garantis, là.
Puis je suis comme, man, ça vient d'où? Comme, est-ce que c'est la répercussion... Puis là, c'est moi qui mets des mots sur des affaires, là, mais c'est la répercussion de, comme, la présidence de Trump d'il y a 4 ans qui... On voit les résultats de ça. Est-ce que c'est comme ça vient d'où, sincèrement? Genre.
Je sais pas, mais ça me fait crissement peur parce que, tu sais, ce que je vois, c'est. J'avais. En fait, c'est là que des fois, mettons. Et regarder des œuvres comme ça, ça fait du bien, mais c'est pas la réalité. Et où est-ce que, mettons, t'as. Tu sais, quand je parle de mon adolescence en tant que jeune personne queer qui découvre plein d'affaires en 2005 et 2010, là, tu sais. Puis, je suis comme, j'en reviens pas qu'on est rendu, genre, 14 ans plus tard, là. Puis que c'est pas réglé. Parce que dans ma tête, ça allait faire, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, là, ça allait que être une pente ascendante. Ça allait être qu'un crescendo vers la fin de l'intimidation, la fin de l'intolérance, le début. Puis, écoute-moi, il y a des choses que je disais, là, que là, genre, je regarde ça dans le passé, puis je suis comme, je peux pas croire, là, mais où est-ce que je disais, mettons, bon, là, de plus en plus, on considère que les personnes trans, on revendique leurs droits, puis tout ça. Là, watchez bien, voici les prochaines personnes que je pense qui vont être dans la liste, puis finalement, on a tellement reculé que je fais comme, oh mon Dieu! Puis il y a un côté où je fais comme, oh mon Dieu, nos acquis! Mais en plus de ça, je pense à, oh, mais moi, ça, il y a 4 ans, là, j'étais comme, non, non, mais vous comprenez pas la gang, là, on va parler d'autres choses bientôt, on arrive, puis genre, attendez-vous, là, à comme devoir rendre des comptes, parce qu'il y a des gens en ce moment qui souffrent au quotidien pour des choses qui sont pas de leur faute, puis qu'ils ont rien demandé à la vie, là, puis là, tu leur forces à faire des choses épouvantables à leur corps, juste sous prétexte que, puis j'étais comme, non, là, on arrive, là, puis les personnes trans ont pavé le chemin, puis on y va, là, puis... Et finalement, pas pantoute! Genre, on est en train de reculer. Fait que là, c'est comme... Je pense pas que c'est juste Trump. Je pense que c'est global.
Oui.
Mais, tu sais, les plus grands... là, je rentre dans des gros dossiers parce que j'écoute beaucoup, beaucoup d'affaires sur, les observatoires sur la conspiration, là. Puis, c'est la majorité des personnes qui se revendiquaient d'être des leaders du mouvement anti-vax ou du mouvement anti-mesures sanitaires sont devenus des leaders anti-personnes trans, tu sais. Fait que, tu sais, la logique, elle se tient pas sur l'enjeu en soi, elle se tient sur quelque chose de beaucoup plus profond. Tu sais, les mesures sanitaires, au final, c'était bien plus profond que juste les mesures sanitaires, tu sais. Il y avait quelque chose. Et là, j'ai pas le langage, j'ai pas la grille d'analyse et j'ai pas les connaissances pour tout catcher ça. Je sais qu'on parle plus du tout de l'émission, mais... Mais il y a quelque chose, par exemple, qui me flabbergasse, puis c'est pour ça que c'est un beau rempart, puis c'est un bel acte de rébellion, mais c'est aussi un ovni, j'ai l'impression, dans la quotidienneté de ce qu'on est en train de voir en ce moment qui se met en branle. Et j'ai vraiment peur. J'aime vraiment pas ça. Mais là, je suis pas en train de ramener l'espoir.
Non, mais écoute, si on veut le mettre sur une note d'espoir, tu sais, mettons, genre... Comment dire, ce genre de, les relations montent qui sont représentées là, dans la série. Tu sais, non, c'est pas ce qu'on voit au quotidien, mettons, dans la société en général. C'est ce qu'on voit dans nos petits cercles, comme à nous, qu'on est genre, ah, OK, ben c'est nice, comme il y a ça à l'écran. Fait que c'est le pas vers l'avant pour que nos communautés soient représentées puis qu'éventuellement, ce soit normalisé pour le reste de la société. Fait que tu sais, on peut se dire que tranquillement, pas vite. C'est un pas vers l'avant, pas assez vite, mais c'est comme... Écoute, j'essaie de mettre une note d'espoir là-dessus, Ellie. Là, genre, I try.
Mais j'apprécie. J'apprécie ce que tu... qu'est-ce que la spécialiste de l'archétype du héros a à dire sur Steed et Ed? Et d'autres, mais...
Ah, mais Ed, c'est le classique anti-héros, là, comme... Mm-hmm. Tu sais, il représente toutes les valeurs qu'on voudrait pas qu'un héros ait à première vue, parce qu'on sait que deep down, c'est un être très doux et délicat une fois qu'il passe beaucoup de temps avec Steed.
Il fait des déjeuners au lit.
Il aime ça s'habiller. C'est comme, il est sweet. Puis Steed, c'est le classique de la Vierge. Donc, pour les gens qui ne m'ont pas entendu déblatérer sur mon mémoire avant, l'archétype de la Vierge, dans le fond, c'est comme l'archétype du héros. C'est juste qu'au lieu de être demandé, être sollicité par la communauté pour sauver la communauté, c'est un personnage qui va commencer son archétype en dehors de la communauté. La communauté le rejette. Un peu, mettons, comme Cendrillon. Tu sais, Cendrillon, on a vu ses shit dans sa tour, puis comme le reste du monde s'en fout un peu. Puis en bout de ligne... comme la fin du périple, la promesse de la Vierge, dans le fond, elle va se sauver elle-même. T'sais, elle ne sauve pas sa communauté peut-être qu'en devenant reine, ça va le faire, là, mais je veux dire, à la fin de Cendrillon, là, elle a pas sauvé le royaume, là. Elle est juste sortie de sa tour, puis elle vit sa best life, puis c'est good for her. Fait que, tu sais, Steed, c'est plus ce chemin-là, c'est de se retrouver, de comprendre c'est qui lui-même pour éventuellement, puis ça, c'est dans mon mémoire, c'est devient un apprenti, donc il doit faire le trajet de la Vierge, de comprendre c'est quoi sa place dans le monde pour éventuellement être capable de sauver son crew, de sauver le... Ben, c'est plus son crew qui sauve, là, il sauve pas de ville ou whatever, là. Fait que, voilà, donc...
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a justement cette notion-là, je trouve, chez Steed, où est-ce que c'est comme, tu sais, il introduit ses valeurs. Dans le fond, c'est comme, tu sais, c'est... Il introduit ses valeurs, puis il va un petit peu contaminer les gens avec ses... Là, on vous a juste dit que c'était comme ça, mais on va le faire d'une certaine façon, puis en même temps, il essaie de parler un langage qu'il comprend pas, parce qu'il parle pas d'égal à égal. Quand il parle à son crew au début de la saison 1, il parle vraiment... « Non, mais là, je suis votre capitaine. » Puis là, les gens sont comme « Whatever. »
Si vous voulez une image là, de l'apprenti, là, comme je l'ai décrit, c'est un peu comme Mulan. Tu sais, Mulan, elle commence le film, c'est vraiment l'outsider. Elle ne fait pas d'inconvention. Elle se ramasse au camp. Tu sais, elle doit apprendre à jouer le rôle. Tu sais, le but de Steed, c'est de devenir un pirate. Tu sais, un vrai... comme Ellie le dit plutôt, comme devenir un vrai homme avec des gros guillemets. Pour se rendre compte qu'en bout de ligne, c'est comme t'as pas besoin d'être l'archétype du pirate pour être un vrai pirate. Fait que c'est vraiment ça. Fait que, mettons, si on fait le parallèle avec Mulan, elle essaye d'être une femme au début, d'agir selon les conventions de sa communauté sur c'est quoi être une femme. Steed, ben, il a essayé d'être un homme, donc il s'est marié, il a eu un enfant. Il y a eu deux enfants, c'est vrai. Pff, écoute, ses enfants, on s'en fout. C'est rare que je dise ça, mais si ça, on s'en fout.
Il s'en fout, nous, on s'en fout, là.
Voilà. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, ils vont faire comme, ah, ben, pour telle X raison, je vais partir. Et là, doivent apprendre un nouveau code. Donc, Mulan essaye de s'immiscer dans le monde des hommes. Steed essaye de s'immiscer dans le monde des pirates, avec des gros guillemets, parce que dans le fond, c'est aussi le monde des messieurs, des hommes avec un grand H. Et en bout de ligne, se rendent compte, tous les deux, que ni l'un ni l'autre, comme t'es pas obligé d'être un ou l'autre, tu peux être les deux et vont allier les connaissances qu'ils ont des deux mondes pour finalement trouver leur vraie place d'être qui ils sont pour de vrai. Et c'est ce qui va les permettre. D'un côté, Mulan va sauver la Chine au complet et Steed va s'affirmer en tant que capitaine du bateau et va trouver un moyen de rallier son équipage de son bord, d'aider Ed dans ses quêtes et éventuellement de sauver son équipage quand ils se font attaquer. Fait que voilà, c'est pour ça que Steed, pour moi, c'est l'archétype de l'apprenti. Et Ed, c'est vraiment un anti-héros. Si vous en voulez en savoir plus sur l'archétype de l'apprenti, vous pouvez aller lire mon mémoire « La force du cœur, l'archétype du héros chez Disney dans les années 90 ». Vous pouvez le trouver en ligne là, avec mon nom, Tamara Rousseau. Vous allez avoir toute l'information sur cet archétype-là.
Ben, écoute...
Je pensais pas me plugger de même, mais voilà.
Ben, pourquoi pas, je veux dire, comme crime. C'est beaucoup d'années de travail qui doit... je vais aller lire ton esti de mémoire, je veux dire.
Il est pas long, c'est juste comme 92 pages.
Pff, OK. Ça va bien aller. Faut juste que je lise mes affaires de travail social avant, là. Mais tu sais, comme ça pourrait être ma petite lecture d'été au bord de la piscine municipale. Sinon, y a-tu d'autres éléments que tu... Là, je vois le temps qui file. Y a-tu d'autres éléments en trait à la série même de la saison 2 ou en trait de la série générale que tu voulais aborder que tu n'as pas eu le temps encore?
Oh mon Dieu. Ben, c'est ça. Moi, j'étais pas là au premier épisode quand vous avez parlé de la saison 1. Là, c'est plus ça comme... Tu sais, tu l'as touché un peu, le personnage de Jim. Tu sais, comme le dévoilement. Tu sais, comme au début, on se dit « Ah, c'est juste une femme déguisée en homme pour être sur un bateau de pirates. » Puis finalement, il y a tout l'arc narratif du fait que c'est une personne non-binaire. Et ce que j'écoutais ce matin dans une entrevue, c'était ça vient tellement naturellement au début. Il y a juste Oulu qui utilise les pronoms « they, them ». Puis sans avoir à dire « moi, je veux vous utiliser ces pronoms-là quand vous me parlez », tout le monde finit par le faire. Puis c'est vraiment easy, c'est vraiment chill. Puis toute la conversation de comme quand ils se rendent compte de l'identité de Jim, dans le fond. Puis Jim est comme « ben... vous m'appeliez Jim avant, ça reste Jim, puis il n'y a rien qui change, puis that's it. » Puis ça devrait être simple de même, puis j'ai trouvé ça beau comme représentation. Puis les personnes que j'écoutais ce matin, c'était justement deux personnes non-binaires qui parlaient de ce coming out-là, puis qui soulignaient que c'est donc le fun que, ben, ça l'arrive dans la saison 1, puis après ça, on passe à d'autres choses. Là, t'es pas obligé de retourner le couteau dans la plaie, puis il y a d'autres choses d'intéressantes dans la vie de Jim, mettons.
Ben, et Jim qui représente aussi un moment donné dans saison 2 quand il représente le côté superstitieux des pirates.
Oui!
Avec le c'était quoi? C'était le côte qui était maudit?
Ah, il me semble que ouais.
Ah, puis j'aime tellement toute cette réflexion-là sur comme ouais, mais on le sait que c'est pas vrai, puis c'est comme c'est pas ça l'important, c'est d'adhérer un peu à tout ça, puis d'accepter où est-ce qu'ils sont rendus pour en parler. Il y avait comme un peu, puis en même temps on le sait pas, peut-être que le compte était maudit pour vrai, tu sais, comme c'est pas clair. Mais j'ai beaucoup aimé la finale de l'épisode où est-ce qu'ils vont juste comme attaquer un navire puis dire on vous paye rien, on vous donne un compte, puis c'est comme est-ce qu'il est maudit, puis c'est comme
mais non! Alors,
c'est pas maudit.
Oh non, mais c'est ça, tu sais, ça touche beaucoup d'enjeux puis de sujets qui sont plus difficiles puis plus touchés, mais ça le fait d'une manière comme, tu sais, ça pourrait être juste, pas ridiculisé, mais tu sais, ça pourrait être juste amené à la blague, puis on fait comme, haha, on a parlé de ce sujet-là, puis whatever.
Ben, l'épisode que j'écoutais avant qu'on rentre en onde, là, c'est clairement une critique aussi, genre de, tu sais, de comme la demande de surperformance au travail, là. Ou est-ce que t'as des personnages qui sont en train de torturer du monde, puis que là, ça va pas assez vite, puis c'est pas assez bon. Puis là, c'est comme... Hey, je serais probablement plus performante si je recevais un merci une fois de temps en temps, tu sais. Puis là, Steed, qui voit la brèche et qui rentre dans la brèche et qui fait comme... Ah, c'est ça, hein, il te manque de reconnaissance. Hey, c'est un beau nom que t'as, tu sais, puis tout ça. Merci! Puis là, ben comme tout l'équipage se retourne vers eux. Ça a été quoi l'impact, vu que je l'ai pas écouté? Il me manque, dans le fond, un épisode et demi, là. C'est quoi l'impact d'avoir tué un homme à ce moment-là, d'avoir tué la personne qui gérait ce groupe de pirates-là sur Steed? Est-ce qu'il est vraiment affecté ou est-ce qu'il est juste pas tant affecté?
Hey, ça fait... comme cet épisode-là, ça fait des mois que je l'ai pas vu, là. De souvenir, je pense, ça y fait de quoi? Il est comme, oh mon Dieu, ça s'est passé. Mais comme...
Mais on n'est pas dans, justement, mettons, comme il a été hanté par l'homme qui a tué par accident.
Ouais, non, on n'est plus là.
OK.
On n'est plus là. C'est genre, c'est fait, that's it, genre.
Comme le rite de passage, là.
Me semble. Prenez-moi pas pour du cash, là, comme je dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ça m'a pas marqué assez. Fait que je pense que ça a juste fait comme, OK, c'est fait, puis let's go, on passe à d'autres choses.
Puis c'est là que tu vois justement que c'est l'amalgame des deux personnalités ensemble qui crée quelque chose de grandiose et de meilleur, parce qu'il se pervertit pas à travers tout ça, mais là, il est comme... Je suis dans un milieu où est-ce que c'est jusque là que je dois me rendre pour défendre les gens que j'aime, puis pour un peu venger leur honneur, parce que comme c'est épouvantable ce qui nous est arrivé, tu sais. Puis c'est ma responsabilité en tant que capitaine, puis tout ça. Mais en étant toujours dans la douceur, la gentillesse, puis dans plein d'autres affaires à côté. Tu sais, il est pas obligé de se rendre là. Tu sais, il peut être dans le continuum de ce que c'est être un homme pirate.
Ouais.
Homme slash pirate. Homme tiré pirate. Tout ça est bien plus. Et en tout cas, bien plus compliqué. Va falloir qu'on aille manger bientôt, parce que je te dis, j'aurais plus à réfléchir. Malheureusement, pas de saison 3.
Non. Écoute, on peut continuer à souhaiter un film ou une bande dessinée comme dans une galaxie près de chez vous, il est supposé nous offrir. Comme, il y a plein d'avenues, là. Puis peut-être que c'est les fans chialent assez fort. We never know.
Et qu'est-ce que tu veux qui se règle dans une troisième saison s'il y en avait une?
Oh mon Dieu! Qui se règle?
Ou qui se conclut. Ou tu sais, comme quelque chose que c'est comme j'espère qu'on va voir ça avant la fin, ou j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça qu'on voit là, tel personnage passer à autre chose. Je sais pas trop quoi.
Honnêtement, la seule affaire que je veux vraiment revoir, c'est Zengi Sao. Je suis fucking fan. Je l'aime tellement. Déjà, je trouve que le personnage historique est incroyable, mais la manière qu'ils l'ont représenté dans la série, puis l'actrice qui la joue, sont tellement... C'est juste un délice. Comme cette madame-là, je prendrais une saison au complet juste sur elle. Comment qu'elle a commencé, où c'est qu'elle est arrivée. Tu sais, mettons, la saison finie, puis elle rencontre Steed puis l'équipage. Genre, tu sais, comme, je prendrais ça, genre. C'est ça que je voudrais.
Ben, on te le souhaite.
Merci.
Un spin-off. Si ce n'est une suite, au moins un spin-off.
Yeah.
Ben, merci énormément, Tamara, d'être venue parler de Our Flag Means Death avec moi, donc saison 2. On se souhaite plus de séries comme ça. On souhaite plus d'œuvres qui font du bien. On a été dans toutes sortes de zones aujourd'hui. On s'est pas fait toujours du bien, mais des fois, il y a rien de mal à se faire du bien, comme qui disait Jean Leloup. Hey, je vais penser à autre chose, il faut que j'aille manger. T'arrives pas à réfléchir. OK, bye tout le monde, à bientôt!
Bye.